Cube Radio. Cube Radio.
En direct à LCN.
14h30, allons retrouver notre collègue Yasmine Abdel-Fadel. Bon après-midi, Yasmine.
Bon après-midi, Julie.
Alors, au moment où on se parle, 14h30, le premier ministre français Gabriel Attal est sur le point d'atterrir à Québec. Il doit aller rencontrer le premier ministre François Legault un petit peu plus tard cet après-midi. Par ailleurs, il a tenu avec M. Trudeau un point de presse en fin d'avant-midi. Et il y a un journaliste qui a posé la question, est-ce que vous adhérez toujours à cette formule de non-ingérence, non-indifférence qui caractérise les relations politiques franco-québécoises depuis des décennies? Écoutons sa réponse.
Je ferai une conférence de presse au Québec, ça tombe bien, je suis là. Et je pense que les Québécois seront attachés à ce que je puisse répondre au Québec à toutes les questions qui sont posées. Maintenant, vous avez repris une phrase, je crois que c'était Perfitte, qui avait dit non-ingérence, non-indifférence, qui, moi, je trouve que cette phrase en dit long, et je m'y retrouve assez bien.
Yasmine, pourquoi on accorde autant d'importance à ce que pense la France au projet de souveraineté?
Je le sais pas. Je comprends pas pourquoi on okay. attend que la France nous dise si elle voit ça d'un bon œil ou d'un mauvais œil. On est un peuple, on est une nation capable de déterminer par elle-même son avenir sans avoir le grand frère ou la grande sœur qui nous dit go ou no go. Là, je comprends pas pourquoi on attend continuellement cette approbation du gouvernement français comme si on était sous tutelle de la République française, comme si on était encore sous tutelle politique ou morale de la République française. Si un jour on devient un pays, la France va devoir y faire face puis entretenir des relations avec le nouveau pays comme tous les autres pays. Et même chose, si on ne le devient pas, notre nation a une proximité naturelle, notamment à cause de la langue, grâce à la langue et la culture et des institutions démocratiques qui peuvent être semblables. Mais la France n'a pas une supériorité morale ou un pouvoir de nous dire ou de nous conseiller d'y aller ou pas. D'ailleurs, il y a des mouvements souverainistes au sein de la France, notamment en Martinique, en Guadeloupe. Est-ce que vous pensez réellement que la France va commencer à appuyer le mouvement souverainiste ici au Québec quand elle essaie de diminuer l'impact des mouvements souverainistes dans ces territoires outre-mer? Tu sais, moi, je suis agacée par cette mauvaise habitude que l'on a à chaque fois qu'on reçoit des convives, notamment de la France, où la première chose qu'ils doivent faire une fois qu'ils foulent le sol québécois, c'est déjà déclarer de quel camp ils sont. Sont-ils fédéralistes, sont-ils souverainistes, comment ils voient ça? C'est un peu gênant. Honnêtement, c'est un peu gênant. On peut-tu juste entretenir des bonnes relations commerciales, des bonnes relations économiques, des bonnes relations culturelles, une proximité de nos universités, de nos scientifiques, prendre plus de place au sein de la francophonie, avoir des objectifs communs d'un point de vue international, la crise à Haïti, l'Afrique, l'Ukraine, qu'est-ce qu'on fait là-dessus? On peut-tu déjà se parler de ça avant de commencer à leur demander de choisir? T'es-tu souverainiste? T'es-tu fédéraliste? Il n'y en a pas de souveraineté pour le moment. Le jour où le Québec deviendra indépendant, inquiétez-vous pas, là, la France va finir par se prononcer. Mais aujourd'hui, je pense que la parole des Québécois est bien plus importante que la parole des Français.
Donc, il ne faut pas vraiment s'attendre à de grandes déclarations surprises cet après-midi lorsqu'il va prononcer ce discours au Salon Bleu, Yasmine?
Ben non, il faut arrêter de rêver en couleur. Là. Il ne va pas dire « Vive le Québec libre ». Ce n'est pas Charles de Gaulle, c'est Gabriel Attal. Ouais. Cette période-là est révolue. C'est le temps qu'on s'en rende compte et qu'on se réveille tous mutuellement.
Pour la première fois au Québec, il y a des infirmières praticiennes qui vont pouvoir prendre en charge des patients, un peu comme les omnipraticiens, sans être supervisé par un médecin. Ce sera effectif à compter de lundi prochain. Est-ce que tu crois que ça va avoir un effet rapide sur l'accès à la première ligne? Parce que, dans le fond, il est là le problème. Une fois qu'on est rentré dans le réseau, ça va bien. C'est pour y rentrer que c'est difficile.
Ben, c'est une excellente nouvelle. Puis je me demande pourquoi on n'a pas ça plus tôt. On apprend que des infirmières qui ont des maîtrises sont capables de prescrire, sont capables de prescrire des examens complémentaires, sont capables de renouveler des prescriptions, sont capables de faire des diagnostics préliminaires et d'aiguiller sur finalement la suite des examens à faire ou s'il faut aller voir un spécialiste ou aller voir un autre médecin omnipraticien parce que ça dépasse leur champ de compétences. Mais lorsqu'on apprend que ces infirmières vont pouvoir prendre entre 200 et 1000 patients et les prendre en charge, pas juste les voir une fois puis pas s'en rappeler, mais que ça devienne leur infirmière de famille, là, un peu comme le concept de médecin de famille, bien, c'est une vraiment bonne nouvelle. La question que je me pose, c'est que on exige aux des médecins de famille de prendre en moyenne 1500 patients à leur charge comme médecins de famille. Pourquoi les infirmières, c'est juste entre 200 et 1000? La question que je me pose, pourquoi aussi peu elles ont la capacité de faire la même chose que les médecins? Elles sont capables de venir porter assistance à cette finalement ces gros défis que l'on a de manière sociétale. Alors, elles sont capables d'en prendre plus. Pourquoi les limiter à 1000 patients de prise en charge? Je pense qu'il faut généraliser cette pratique. Les infirmières sont compétentes, sont excellentes et méritent qu'on leur donne la place qu'elles méritent.
Yasmine, merci beaucoup.
Au revoir.
Au revoir.